Bonjour Louis Ferrand, vous nous présentez ce soir au Théâtre des Clochards Célestes, Buffet gratuit. Donc c'est un texte que vous avez écrit et mis en scène. Alors Buffet gratuit, c'est un buffet gratuit qui est bien maigre, puisque c'est un groupe restreint qui recrute des candidats pour révolutionner le monde. Donc il y a une chef, des exécutants et une charte pour sauver ce qu'il reste de la planète. Vous imaginez un monde, le monde d'aujourd'hui, mais une fois qu'il est effondré.
Oui, c'est très joliment dit, en effet. Au départ, moi, je me sentais très préoccupé par l'état du monde et vers là où le monde tendait, dû à une grande inaction climatique à échelle globale et à des inégalités qui se renforcent, s'exacerbent et qui sont justement, elles aussi, radicalisées par les problèmes climatiques. À savoir que les populations les plus pauvres sont celles qui subissent les premières les ravages climatiques, quand les populations les plus riches peuvent s'en prémunir, alors même que ce sont les populations les plus riches qui polluent le plus. Et je me sentais vraiment impuissant face à cette marche du monde. Et donc je me demandais comment le théâtre, comment à mon endroit on peut parler de ces problèmes-là face auxquels on se sent impuissant. Et au départ, je cherchais plutôt des réponses que je n'ai, à vrai dire, jamais trouvé, puisque plus j'avançais dans la problématique, plus je continuais à me poser des questions autour de la justice sociale, autour de la lutte des classes, autour de la violence politique, qu'elle soit institutionnelle ou alors en lien avec une révolte, et donc des gens qui refusent de se soumettre à la violence d'un monde et qui par là peuvent commettre des violences en réponse à ces violences institutionnelles. Et donc j'ai avancé dans l'écriture de cette pièce avec toutes ces questions qui m'animaient autour des enjeux de violence, de non-violence, dans les luttes. Et autour des enjeux démocratiques aussi. Est-ce que, une fois que le monde se précipite vers la catastrophe, est-ce que le temps long de la démocratie est encore efficace et est-il encore possible de le sauver ? En tout cas, ces personnages tentent, tant bien que mal, d'en préserver des traces de démocratie à leur échelle.
La thématique, c'est beaucoup autour de la guerre de l'eau. C'est un sujet d'ailleurs qui risque de devenir d'actualité sous peu. Comment vous est venue cette idée d'accrocher ce fil ? Comment vous vous êtes documenté peut-être aussi ?
Alors, quand j'ai commencé à travailler autour de l'effondrement social et écologique, la problématique de l'eau est venue très vite et j'ai vu un documentaire assez édifiant sur des endroits dans le monde où l'eau a été privatisée, où la finance s'est accaparée ce bien commun et où des agriculteurs qui ont adhéré à ce dispositif, en Australie notamment, où la loi a été votée pour privatiser l'eau, ces agriculteurs-là se sont retrouvés pris à la gorge parce que l'eau se raréfiant, ses coûts sont devenus exorbitants. Et finalement, au nom d'une régulation de la ressource, c'est plutôt en bout de chaîne les plus petits qui en ont souffert les conséquences. Et j'étais vraiment indigné par ce cynisme de ces gens qui légitimaient la privatisation de l'eau, qui étaient interrogés dans ce documentaire. Et l'un d'eux disait notamment, l'une des répliques phares du spectacle, qu'il ne voyait pas de problème à privatiser l'eau parce que la vie n'était pas gratuite. Et que même si c'était un bien commun, il fallait que les gens se rendent compte de la valeur de l'eau. Et c'est l'une des lignes que défend le personnage de l'otage dans le spectacle. Et en effet, donc, c'est une problématique qui va devenir de plus en plus brûlante dans les années qui viennent, mais qui est déjà d'actualité aujourd'hui. Et il y a un fil d'équilibriste dans le spectacle qui parle d'effondrement et d'un monde futur, mais qui est déjà très ancré dans la réalité des temps présents.
Oui, notamment avec les affaires d'eau polluée, là.
Alors oui, il y a les eaux polluées avec Perrier, mais malheureusement la liste est longue. Il y a les polluants éternels, les PFAS, qu'on évoque aussi au début du spectacle, qui contaminent vraiment toute la surface de la Terre, même les endroits les plus reculés. Il y a la pollution plastique, il y a la désertification des sols, mais aussi l'érosion des sols, qui rendent de plus en plus difficile l'agriculture. Des terres qui ont été trop bombardées d'intrants chimiques, d'engrais qui font que les terres ne cultivent plus suffisamment. Et donc oui, en fait, ce sont des pollutions qui sont déjà présentes dans notre monde aujourd'hui et qui, en l'absence de réponses politiques fortes, risquent de s'aggraver. Et là, on a eu le scandale au cadmium très récemment qui vient s'ajouter à la liste. On est vraiment dans un monde de plus en plus pollué et il va être très difficile pour les générations futures de le réparer.
Et du coup, est-ce que c'est vous qui avez écrit le texte comme ça d'un jet, ou est-ce que vous êtes servi de la création sur scène, enfin voilà, pour créer aussi les dialogues, pour avoir un travail d'équipe avec les comédiens, ou le texte était déjà écrit et rien n'a bougé?
Alors beaucoup de choses ont bougé. L'histoire du texte a été longue. J'ai commencé à écrire en 2021 les premières esquisses. Ensuite, je suis arrivé à une forme à 7 personnages en 2022 que j'ai réduite pour des raisons d'efficacité dramaturgique et également aussi économique, en lien avec l'économie du spectacle vivant aujourd'hui, qui elle aussi est en train de s'effondrer. À 5 personnages donc, ainsi que 2 complices qui se glissent dans la salle et qu'on brief, on contacte des spectateurs et spectatrices en amont pour garder un petit effet de surprise dans l'interaction avec le public. Et alors bien sûr que le plateau a répondu à certaines interrogations dramaturgiques et la structure a été très mouvante. Au fil des répétitions, il y a eu plusieurs étapes de travail, des sorties de résidence, des moments de répétition. On a eu l'été dernier une création en extérieur du spectacle. Là, au Clochard Céleste, ça a été la création en intérieur. Et donc, à chaque fois, le spectacle s'est affiné et sa dramaturgie s'est vraiment précisée. En sachant que le vote du public, qui détermine la fin de l'histoire et qui génère 4 fins alternatives, date d'il y a à peine un peu plus d'un an.
Ah justement, cette interaction, c'est intéressant parce qu'il y a 4 suites possibles, oui, à chaque fois. 2 votes, donc 2 fois 2, 4. Mmh. Et du coup, là, vous l'avez joué 7 fois ici au Clochard Céleste. Mmh. Et du coup, à chaque fois, c'était différent ou...
Comment ça s'est passé ? Oui, en effet, les fins sont souvent différentes. On a commencé à faire des petites statistiques pour voir quelles étaient les fins qui revenaient le plus. Alors, ce qui est très chouette au Clochard Céleste, c'est que sur cette semaine à Lyon, les votes étaient vraiment partagés. C'est-à-dire qu'on arrivait très proche d'un 50-50, enfin, c'était assez serré au niveau des décomptes. Après, il y a des constantes qui se vérifient, notamment auprès des publics jeunes. Souvent, les publics les plus jeunes ont préféré sauver Bruce et continuer le plan révolutionnaire. Et donc, ces choix-là aboutissent à notre fin la plus heureuse, en tout cas avec le plus d'espoir vers l'avenir. Et ce sont plutôt les adultes qui choisissent de condamner Bruce et parfois de destituer Chef, mais aussi également de continuer le plan révolutionnaire. Et donc on a réussi déjà à jouer ces 4 fins qui racontent vraiment des choses différentes, qui donnent une issue tout à fait différente au spectacle. Et après, bon, alors c'est sûr que c'est une gymnastique d'abord mentale pour les comédiens et comédiennes de les apprendre, mais également aussi dans le rapport à l'espace, les mises en scène sont assez différentes. Alors il y a des touches de couleurs, des nuances qui se retrouvent. Mais ça a été complexe au début de devoir apprendre 4 fois plus de fins pour n'en jouer qu'une seule à chaque fois. Mais c'est aussi ce qui fait le sel et le piment du spectacle. Quand on arrive au vote, il y a un grand vertige parfois qui peut nous prendre et qui est très excitant.
Oui, c'est ça, parce qu'on parlait de révolution, la violence inhérente aussi à la révolution. Mais du coup, oui, effectivement, cette fin à 4 chemins différents, finalement, on s'aperçoit que vous doutez un petit peu de la bonne escience de cette révolution qui contient de la violence, en fait.
Peut-être que j'émets un doute, mais je pense... en fait, je me pose véritablement la question, dans tous les cas. Et je sais qu'on a beaucoup d'exemples dans l'histoire de révolution qui ont eu recours à la violence, notamment en France. C'est la révolution la plus connue en France, 1789, qui a été suivie de 1793, la période de la terreur, où la guillotine a vraiment décapité de nombreuses personnes, y compris au sein même des premiers progressistes républicains. Et en fait, la grande question, c'est en effet de savoir si le rapport de force doit être violent pour provoquer un changement face à un système qui, lui, s'accommode d'un statu quo et d'une absence de revendications un peu plus musclées. Ou est-ce que la violence perpétue un cycle de violence qui ne cesse de s'accumuler et avec lequel on n'arrive pas à rompre? Et après, la question autour de la révolution, est-ce que celle-ci a besoin justement de durcir le rapport de force? Parce que c'est quasiment indubitable de dire que 1789, sans les périodes d'émeutes dans la rue, la royauté n'aurait jamais été abolie. Donc il y a eu besoin aussi de mouvements populaires qui tapaient un peu du poing sur la table au moment de la prise de la Bastille pour accompagner le changement idéologique. Mais il y a aussi d'autres formes de révolution qui, elles, apparaissent plus en filigrane dans nos fins où on tend la main à Bruce, où du coup on décide de faire ensemble. Et ce sont des fins où c'est plutôt la ligne qui est défendue par Commis, où on va faire à échelle locale. Et il y a cette idée d'archipel, une petite île qui s'organise autrement à échelle locale va peut-être trouver écho dans une autre petite île. Et à force, ces îlots vont émerger, ça va créer un archipel et le changement va se faire à l'intérieur plutôt que par une lutte à l'extérieur. Et donc c'est une autre forme d'évolution des sociétés.
Autrement dit, pour connaître le meilleur futur, il faut qu'on voit toutes les fins possibles de votre spectacle.
Alors, les fins ne donnent pas de réponse non plus au meilleur des futurs. Enfin, ça, je pense qu'on ne peut pas prétendre donner une vérité là-dessus.
Mais peut-être les acteurs, est-ce qu'ils sont cinq finalement, ouais. Est-ce qu'il y a une fin qu'ils préfèrent eux ?
On les préfère pour des raisons différentes souvent. Ouais. Parfois, on préfère des fins pour la dramaturgie ou le plaisir à jouer telle ou telle fin. Et parfois, c'est plutôt les fins dramatiques qu'on va préférer, alors même que, en tant que citoyen et citoyenne, on va préférer l'une ou l'autre fin dans ce qu'elle raconte et le message qu'elle véhicule. Mais après, oui, il y a des fins, pour reprendre la question autour du futur heureux, il y a des fins qui ont plus d'espoir et d'autres qui ont plus de mélancolie. Des fins plus ouvertes que d'autres.
Merci Louis Ferrand.
Et bien longue vie à vous et longue vie à ce spectacle.
Merci.
Merci beaucoup.